Les colloques du Collège de France.
C'est un, là aussi, c'est une réflexion que j'engage sur une sourate sur le rapport entre la transmission manuscrite et les possibilités que nous avons d'éclaircir un peu l'histoire du texte, aussi bien au niveau, au micro niveau de la, du texte d'une sourate, mais aussi de l'ensemble du texte coranique. Avec tout d'abord une question, est-ce que la sourate 19 est une sourate mécoise ou médinoise ? Bon, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai suivi donc un côté, j'ai pris parti. La tradition voit les choses de manière claire. La sourate 19 est mécoise, c'est-à-dire antérieure à 621, à l'exception des versets 58 et 71 qui sont, pour cette même tradition, médinois. C'est celle qui est reflétée dans le courant des études coraniques qui s'inscrit dans la suite des travaux de Théodore Neeldeke. Et par exemple, pour Angelika Neuwirth, c'est une sourate de la période mécoise intermédiaire. Et bon, Nikolai Sinai fait à peu près la même chose. Tous les chercheurs n'adoptent pas cette position. Richard Bell voyait dans cette sourate un texte médinois appuyé, il est vrai, sur une rédaction plus ancienne. Les lettres mystérieuses du début, le verset 1 de la sourate, et les références au livre dans les versets 16, 41, 51 et 54, comme une sorte de relance du texte, Fathkur fil Kitab, lui faisait conclure, mais ça c'était aussi sa théorie, que la rédaction actuelle est d'époque médinoise, mais il avait des raisons de penser, notamment à cause de l'analyse des rimes, qu'il y avait une version plus ancienne qui était venue initialement. Récemment, dans le Coran des historiens, Guillaume Di affirme, et je le cite, que la sourate 19 est la version retravaillée d'un texte qui a très probablement été composé après, le « après » est en italique, les conquêtes, en d'autres termes, après 638. Il m'a donc semblé intéressant de revenir sur cette sourate et de voir ce que la transmission manuscrite du Coran nous permet de dire à propos de la date de sa composition et plus généralement à propos de celle du Coran. Nous disposons d'une part de témoins du texte qui se rattachent à la famille textuelle qui est très très largement dominante, ce qu'on appelle donc la vulgate haussmannienne, représentée par un nombre important de manuscrits et qui à l'heure actuelle est représentée par la masse de l'imprimé, mais là je me contenterai de la période qui se termine vers 100 de l'Égypte, c'est-à-dire vers 718-19. De l'autre côté, nous avons un témoin unique, le fameux palimpseste de Sana, que Behnam Sadeghi appelle Sana 1, mais pour en parler ensuite, il utilise une autre désignation pour le texte inférieur que vous voyez à l'écran, dont il parle comme d'une, et je le cite, autre traduction textuelle qu'il appelle C1, C étant pour compagnon. L'appartenance de la couche inférieure du palimpseste à une tradition est une chose, la dénomination des témoins matériels de celle-ci en est une autre. Et donc je conserverai pour ma part le nom qu'il avait proposé pour le manuscrit, Sana 1, et j'appellerai la couche inférieure du texte S1A, dans la mesure où pour moi le manuscrit est quand même une chose importante. Pour la Vulgate, nous disposons par ailleurs, c'est bon de le rappeler, d'une datation au carbone 14 pour le manuscrit de Tübingen, entre 649 et 675, pour le manuscrit de Berlin, Wettstein II, 1913, une date entre 662 et 765. Je vous donne ces manuscrits parce que le texte de la sourate 19 figure sur les feuillets du manuscrit, donc en principe sont compris dans la fourchette de datation que je vous donne. Pour ce qui est du palimpseste de Sana, nous avons aussi des dates, même nous en avons plusieurs et peut-être un peu trop. Une première qui avait été proposée justement par Sadeghi dans la première publication qu'il avait faite, entre 578 et 669. Puis une autre date qui a été obtenue par une équipe franco-italienne, entre 543 et 643. Avec une au sein de cet ensemble, sur un des échantillons, une date entre 433 et 599 qui, bien sûr, doit correspondre à un lapsus de la machine, parce que c'est un peu difficile d'imaginer un texte coranique à ce moment-là. Pour être complet, je ferai aussi appel à ce que la tradition musulmane nous dit de recueils coraniques qui auraient été réalisés par des compagnons, notamment ceux d'Ibn Masoud et ceux d'Ubay, sur lesquels nous disposons de renseignements un peu plus fournis qui donnent un peu de substance à la chose. Nous n'avons d'informations sur ces recueils que sous la forme de listes de variantes qu'ils présentaient par rapport à la Vulgate et non par un texte suivi, comme c'est le cas avec le palimpseste, de telle sorte que nous ne pouvons pas savoir si ces listes représentent une sélection qui a été faite par des savants médiévaux qui les ont établies et transmises, ou si elles reflètent fidèlement et complètement la réalité. Behnam Sadeghi et Goudarzi estiment approximativement que par rapport aux quelques 150 variantes de la version d'Ibn Mas'ud telle que nous les connaissons par la tradition, S1A en comporte 25 fois plus, c'est-à-dire environ 3750. Donc on n'est pas du tout dans le même ordre d'idées. Comme il a été beaucoup question du palimpseste de Sana et de ses divergences par rapport à la Vulgate, je commencerai par ce point. Une caractéristique commune aux différentes familles textuelles, c'est que la typologie des variantes reste la même dans tous les cas. Il faut souligner que dans le cas de la Vulgate, nous pouvons connaître des cas où il s'agit clairement de variantes apparues au cours d'une transmission écrite postérieure à 656, date de la mort du calife Osman, à laquelle en principe sa recension était achevée si nous admettons le scénario classique et non pas le scénario, disons, omeyyade. Si nous acceptons cette date, un autre point commun est la date de 632 pour les différentes recensions, qui est la date de la mort du prophète Mohammed. Pour des raisons évidentes, on peut penser qu'il n'existait pas de copie structurée et fermée avant 632, dans la mesure où de nouvelles révélations étaient toujours possibles. Certaines traditions ne rapportaient-elles pas que la dernière révélation précéda sa mort d'une dizaine de jours. Mais une fois sa voix s'étant tue, le texte a pu quand même continuer à évoluer, même s'il n'y avait pas forcément des ajouts très importants. Mais au niveau de la forme, également en termes de contenu, on peut imaginer qu'il y a eu des apports dus à un travail éditorial. Il y a des variantes communes et certaines de celles-ci sont intéressantes car elles font apparaître une convergence entre S1A et les lectures qui sont conservées par la tradition comme étant propres au recueil d'Ibn Mas'ud ou de Dubaï. Dans la sourate 19, on relève les cas suivants, donc je vous énumère à l'écran les cinq versions que j'ai retrouvées qui correspondent donc à un point où, grosso modo, ou ma foi, parfois très directement, le palimpseste et les variantes des compagnons sont les mêmes. Si on admet sinon l'exactitude, du moins l'authenticité de ces informations relatives au recueil des compagnons, la présence de variantes antérieures à 656, date au plus tard de la mort d'Ubay, Ibn Mas'ud étant mort environ 3 ans plus tôt, encore que bon, pour Ubay, les choses sont un peu plus complexes que cela, ce serait un élément à prendre en considération pour dater le texte. Mais il est vrai que S1A a pu incorporer ces variantes après la mort des deux compagnons, et la tradition peut d'autre part leur avoir attribué aussi ces variantes a posteriori. D'autres variantes supposent en fait, et c'est plus intéressant, une indépendance des lignées textuelles. Prenons par exemple le début de la sourate 19. On y trouve dans le palimpseste un verset supplémentaire, le premier donc qui apparaît à l'écran, qui fait écho au verset 19 de la même sourate. Simplement, le deuxième verset concerne Jésus, alors que le premier se rapporte à Jean. La variante est parfaitement en accord avec le style du passage, même si elle en modifie l'organisation à un endroit où malheureusement bon, S1A est un petit peu mutilé, donc on n'a pas absolument toute l'information souhaitable. De plus, le verset 19 que vous voyez à l'écran montre lui aussi une variante qui mettrait d'ailleurs, et c'est intéressant, les deux phases à l'unisson, puisqu'on pourrait lire, en l'absence de diacritique, « li nahaba » dans le palimpseste, une première personne du pluriel, comme « wahabna » dans le verset supplémentaire du palimpseste. Mais, et cette variante est connue par ailleurs, donc c'est un point qui est intéressant pour l'histoire du texte. Un peu plus loin dans cette sourate 19, je ne fais pas la liste de toutes les petites variantes qui s'y trouvent, on a cette fois-ci deux textes divergents au verset 61 et 62. Donc je vous donne en haut la Vulgate, le texte arabe en transcription, avec une traduction que j'emprunte à Blacher, et puis en dessous, la même chose pour le palimpseste de Sana, avec un mot que j'ai mis en majuscule avec un point d'interrogation derrière, parce que je ne suis pas sûr de ce qu'il faut lire. Donc vous voyez qu'à cet endroit, il y a une variante qui est quand même assez substantielle dans la mesure où on a une modification de la formulation, et même si le texte ne suppose pas un changement radical de sens, il n'en reste pas moins que nous avons plusieurs changements sensibles. Plusieurs variantes présentes dans ce passage, notamment celle que j'ai mise en avant, et ça c'est un point sur lequel je souhaiterais insister, sortent du cadre d'une transmission orale à partir d'une source unique. Il est difficile d'en rester strictement à ce que Sadeghi et Goudarzi appelaient une transmission semi-orale, dans la mesure où la source unique qu'ils postulent n'explique pas le passage les passages que vous voyez à l'écran où le rouge est clairement autre chose. Enfin, on ne peut pas imaginer que les gens aient mal entendu ce qui se disait entre Ad et Al-Khuld. Même si on est un petit peu dur d'oreille, on se rend compte que la formulation est différente. Dans leur scénario, il semble qu'il n'y ait eu qu'une seule récitation sans aucun travail d'édition, alors que les données dont nous supposons suggèrent, outre le caractère fragmentaire des révélations, ça c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps, d'une part la répétition d'occasions où des récitations avaient lieu, et de l'autre la reprise, au sens éditorial, de passages anciens. S1A a été S1A a été la première et ultérieurement le verset a été omis par la Vulgate. Le total des variantes entre S1A et la Vulgate pour la seule sourate 19, légèrement supérieur à la cinquantaine, est trop élevé et leur nature trop correcte au sens que il n'y a pas de faute grossière de l'arabe, il n'y a pas de faute de transmission du type de celle qu'on connaît habituellement, enfin du saut du même au même, le copiste qui change un mot parce que c'est plus simple, pour qu'elle se soit glissée dans la tradition manuscrite du texte entre 640 et 670, 670 étant le point le plus tardif des datations au carbone 14 du parchemin, voire même une ou deux décennies plus tard pour laisser un peu de marge. Je dis qu'elles sont trop correctes parce que ces variantes correspondent, comme l'avait déjà souligné Sadeghi à Goudarzi, à la typologie de celles qui sont propres à la tradition de la Vulgate. Vous savez que dans la Vulgate, il y a une quarantaine de variantes du rasme qui sont là depuis une date assez ancienne, qui sont parfaitement intégrées au qirat dont il vient d'être question. ou encore à celle des recueils d'Ibn Masoud et d'Ubay, dont on peut faire la typologie, et on se rend compte qu'elles ont à peu près les mêmes caractéristiques. Seul un tout petit nombre des variantes qui apparaissent sur S1A peuvent éventuellement être considérées comme des fautes de copie, si l'on veut, mais même celles-là, parfois, sont défendables comme de véritables variantes. Nous avons donc deux textes, connus par des témoins que l'on peut placer, donc, encore une fois, en allant au plus tard possible vers 675, qui présentent les indices d'un cheminement indépendant qui n'est pas explicable par une transmission écrite. Dans la transmission d'un texte, on attend en effet que des variantes apparaissent au cours du processus, dues en particulier à des erreurs de copiste dont il existe une typologie tout à fait connue. Mais ces variantes doivent pouvoir être expliquées par rapport à un texte base dont les caractéristiques sont partagées par tous les témoins qui en dérivent. Comme à l'époque où nous nous plaçons, les voyelles n'étaient pas notées, faute d'un système graphique permettant de le faire, et que les diacritiques permettant de distinguer entre eux les homographes, il en a été question à l'instant, n'étaient pratiquement pas employées, nous devons nous limiter aux variantes du rasme, c'est-à-dire du squelette consonantique, ce qui fait que le nombre des variantes potentielles se réduit considérablement. Dans le cas de la Vulgate, il s'agit d'une quarantaine de points du texte où il existe des divergences entre quatre lignes de transmission. Le texte que nous donne à connaître S1A est ce qu'on appelle dans la typologie des manuscrits un unicum, c'est-à-dire que c'est le seul témoin de son espèce, de la famille textuelle qu'il représente. Nous ne pouvons pas savoir si d'autres témoins présentaient ces mêmes variantes, mais la comparaison avec la Vulgate nous en montre en tous les cas une quantité importante. On notera également que S1A ne s'accorde que très partiellement avec le texte d'Ubay dont il est le plus près. Même si les points où S1A est d'accord avec Ubay ou même avec Ibn Masoud donnent de la crédibilité à ces listes, il convient de souligner que nous ne savons pas ce que celles-ci, j'insiste là-dessus, représentent par rapport au manuscrit réel. Nous avons des listes, mais ces listes ont été transmises au sein d'autres textes et non pas comme des manuscrits en tant que tels. En tout état de cause, S1A s'affirme clairement comme le représentant d'une transmission qui est tout à fait différente des trois autres, donc Ubay, Ibn Masoud et la Vulgate. Parlons maintenant des convergences. Il est remarquable d'un côté que S1A respecte les mêmes conventions de présentation que les plus anciens manuscrits de la Vulgate que nous connaissons. Format vertical, comme elle, la fin de chaque verset est soigneusement marquée par un groupe de tirets, la disposition varie, mais pas le caractère systématique de ces divisions. De toute évidence, il s'agit d'une composante du texte qui avait de l'importance pour la transmission écrite des tout débuts de l'islam. De même, la rime qui précède l'élément matériel dont il vient d'être question présente également une grande stabilité. Dans la majorité des cas, il existe un accord qui s'explique sans doute par la position stratégique, si j'ose dire, de cette composante importante du style coranique, position qui en faisait un élément prégnant du texte au cours de la récitation et qui facilitait donc la mémorisation. Dans la sourate 19, les rimes sont communes aux deux versions du texte que nous pouvons comparer, c'est-à-dire S1A et la Vulgate, à l'exception de celles qui correspondent à une césure propre à S1A à l'intérieur des versets 21 et 26. Je crois que j'ai fait une erreur. Voilà, c'est le texte. J'ai entouré deux versets qui sont en quelque sorte en plus des divisions de la Vulgate, et qui sont un petit peu surprenantes dans la mesure où elles ne riment pas avec le reste. Et ça, en principe, ça permet de détecter une anomalie, enfin anomalie au sens que le texte n'a pas été homogénéisé à cet endroit. Il existe par ailleurs un verset supplémentaire entre la fin du verset 6 et une version abrégée du verset 7, sa rime étant Zakidian, qui s'intègre dans la séquence du passage. Dans l'équivalent des versets 61 et 62 que j'ai montré tout à l'heure, il n'y a pas de trace de séparation de versets après Matthian, alors que la Vulgate l'a, mais l'espace qui existe sur le palimpseste permet de penser qu'elle était là avant qu'elle ne et qu'elle a été complètement grattée. Cette stabilité des deux composantes formelles, donc la séparation des versets d'une part par un signe spécifique, la rime de l'autre, s'accompagne d'une coïncidence exacte ou presque exacte de la séquence des versets dans la sourate 19 entre Essain A et la Vulgate. De fait, on peut mettre en parallèle les deux textes et constater que son organisation ne varie pas ou très très peu avec la divergence que j'ai signalée pour le verset supplémentaire du début et les versets 61-62. Cette coïncidence qui se vérifie dans les autres passages que nous possédons du palimpseste a une signification importante pour l'histoire du corpus coranique. Elle montre que cet ordre était stabilisé, au moins dans ce que nous possédons de S1A, et plus précisément pour la sourate 19. Le Coran est un texte oral, et il en conserve les marques. La question qui se pose est celle du passage de l'oral à l'écrit. La notation par écrit a débuté à une date qu'il est difficile de déterminer, mais qui remonte vraisemblablement à la période mécoise, au moins vers la fin de celle-ci. Behnam Sadeghi a proposé une série de stémas, c'est-à-dire d'arbres généalogiques, si vous voulez, pour illustrer théoriquement la façon dont les recueils dérivent de cette source. Avec Goudarzi, il suggérait donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une transmission semi-orale, soit sous la forme d'une récitation réalisée en même temps que quelqu'un mettait le texte par écrit, sans que ce soit un mot à mot, soit de mémoire, la personne qui faisait la transcription, restituant ce qui venait d'être récité peu avant en sa présence. Le processus, en fait, a pu être beaucoup plus complexe, mais comme ça n'a pas d'incidence directe sur mon propos, je n'entrerai pas dans plus de détails, sauf pour faire observer une chose, c'est que méthodologiquement, si vous voulez, le stéma, ça marche très bien avec les manuscrits, dans la mesure où on a un modèle, puis après ça, les choses qui dérivent. Le seul problème ici, c'est qu'on n'a pas toujours un manuscrit, dans la mesure où le P, pour prophète, vous l'avez compris, c'est pas un manuscrit, c'est un homme. Et donc, comme je l'ai dit, il a pu répéter des passages, répéter des sourates, et pas forcément exactement de la même manière, ce qui fait que ce P devrait être exprimé autrement. En tous les cas, pour faire les choses plus simples, je dirais que Sadeghi Goudarzi, et je pense que c'est la bonne solution, considère que le graphique numéro... avec la lettre F, est celui qui est le plus vraisemblable. Mais encore une fois, il faudrait revenir dans les détails. Il existe un accord général dans la séquence des rimes entre la Vulgate et le palimpseste, mais la césure propre, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, à l'intérieur, dans les versets 21 et 26, laisse entrevoir l'ancienneté de l'état du texte du palimpseste. Ces deux fins de versets contreviennent en effet, comme je le disais, à la logique des rimes, qui correspondent à une fin de passage, et qui rappellent ce qu'on trouve dans un autre manuscrit dont j'ai eu l'occasion déjà de parler, et où un état initial où la rime faisait défaut, et un ajout ultérieur qui vient compléter le verset pour faire disparaître le hiatus, sont encore visibles. S1A, le palimpseste, conserverait donc à cet endroit le souvenir d'un état ancien de la séquence des fins de verset, qui a été rectifié au moment du passage à l'écrit, même si on a oublié de supprimer la séparation à cet endroit. plus important est l'impression que donne son texte d'être moins abouti, moins soigné que celui de la Vulgate, comme si cette dernière avait fait l'objet d'un travail éditorial plus approfondi. Au verset 61 et 62 que je vous montrais tout à l'heure, S1A montre une lourdeur avec ses répétitions qui ont disparu dans la Vulgate. Dans la tradition manuscrite de cette dernière, dont nous pouvons comparer les témoins du premier siècle de l'Égypte, donc 7e et début 8e siècle, ce qui n'est pas le cas pour la version attestée par S1A, l'oralité semble avoir perdu de l'importance. De fait, deux manuscrits qui ont fait l'objet d'une étude suivie, le Codex Parisino-Petropolitanus, enfin j'y fais allusion, et le livre de Lavage qui a été publié récemment, ainsi que les différents exemples relevés par Marijn van Putten dans la production ultérieure, coïncident pour laisser conclure que la transmission écrite a été la norme. Et comme l'indiquent certaines des variantes canoniques de la Vulgate, c'est l'écrit, lu de manière différente en raison de son caractère défectueux, là je prends position par rapport à la question que je posais tout à l'heure, lu donc de manière différente, a influencé l'oral et engendré des variantes qui se sont fixées par la suite par écrit au moment où on a fait attention à marquer les diacritiques. Cette importance de l'écrit à ce moment de l'histoire du corpus coranique est difficilement compatible avec les conditions qui correspondent à l'apparition des recensions. Ces dernières remontent à une période plus ancienne où l'oralité avait une incidence directe sur le texte. À ce moment, une autorité incontestable, c'est-à-dire Muhammad lui-même, pouvait décider de l'organisation interne des sourates, pas de leur ordre, une décision qui s'appliquait aux différents recueils. Enfin, l'existence de différentes recensions d'un côté, la domination écrasante de l'une d'entre elles de l'autre, rendent peu vraisemblable que des versions concurrentes du texte ou des variantes importantes soient apparues à un moment où le pouvoir qualifien se consolidait, ce d'autant plus que les versions sont trop similaires pour être le reflet de positions qui se seraient développées après la mort de Muhammad ou après même 650. Il me semble donc que les deux textes invitent à envisager une datation pour leur origine, hein, pas pour leur présentation finale, à 632. Peut-on envisager que la sourate 19, dans laquelle les partisans d'un Coran omeyyade voient, comme je le disais tout à l'heure en citant Guillaume Dit, la version retravaillée d'un texte qui a été très probablement composé après les conquêtes, en d'autres termes au moins après 638, soit tenable. Indépendamment des traits archaïques de la sourate 19 dans le palimpseste, nous devrions admettre que deux traditions textuelles qui couraient côte à côte, celle de la Vulgate et celle représentée par le palimpseste, auraient intégré chacune de son côté une version d'un même passage, différente de l'autre, mais concordante. On voit les difficultés que pose un tel scénario, qui ne tient pas compte, en outre, de la possibilité qui existe que la tradition de S1A ait eu une circulation circonscrite au Yémen, je rappelle que c'est là où le manuscrit a été découvert, bien loin donc de la Palestine, où, selon l'hypothèse de Schumacher reprise par Dit, se trouverait l'origine du texte concernant Marie dans la Sourate. Résoudre la chronologie du texte reste difficile. Au moins, son origine peut-elle être reportée à une date ancienne, probablement antérieure, pour l'essentiel, à la mort de Muhammad. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.